Chapitre 2. Ouvrant les yeux, Christopher se demande pourquoi les arbres sont à l'envers. Les buissons semblent aussi avoir poussé dans le mauvais sens. Et pourquoi diable est-il ainsi avachi, comme un sac de linge sale, la tête en biais, le volant lui comprimant la poitrine? Un tapotement répété le ramène au présent. Quelqu'un toque à sa vitre. Une jeune femme. « Monsieur ! Monsieur !» répète-t-elle, d'une voix étouffée par le verre. Elle parvient à ouvrir la portière. Chris sent aussitôt un courant d'air frais et se rend compte que ce n'est pas le monde qui s'est retourné, mais lui. La femme s'est accroupie. Elle lui demande avec calme. « Est-ce que vous me comprenez ?»« Absolument, » répond-il, la voix pâteuse. « N'essayez pas de vous dégager. Avant toute chose, je dois vérifier votre état. Je n'ai rien de cassé. » Elle le regarde, sceptique. Comment pouvez-vous en être sûr? Je le sens. Alerte à toutes les unités, se moque-t-elle à mi-voix. Le type dans la camisole déclare qu'il est sain d'esprit. Chris se concentre, fronçant les sourcils au point de s'en déformer le visage et réplique. Je ne prétends pas être sain d'esprit, mais je vous affirme que je ne souffre d'aucune fracture. Elle se faufile à quatre pattes dans le véhicule. Lorsqu'elle le frôle, Chris note qu'elle sent bon. Un parfum fleuri, discret mais original. Il ne pense soudain plus qu'à cela. Pourquoi cette inconnue a-t-elle choisi cette fragrance? Que révèle celle-ci de sa personnalité? Confusément, il se dit qu'il a tout de même dû subir un sacré choc pour que ce genre de question trouve une telle résonance en un moment pareil. La jeune femme est contre lui. En se contorsionnant, elle atteint le verrouillage de la ceinture tout en enlaçant Chris avec précaution. « Abandonnez-vous dans mes bras. Ne cherchez pas à vous porter. » Il hoche la tête pour signifier qu'il a compris. Ce simple mouvement lui secoue le cerveau aussi douloureusement que si l'on avait joué au ballon avec. Un déclic de la ceinture et le corps de Christopher s'affale, tandis que la jeune femme l'étreint pour le retenir. Elle sait s'y prendre. Il se laisse faire. Sans à-coup, elle l'extrait de l'habitacle et l'allonge dans les hautes herbes. Reinhard réalise que son ange gardien porte un uniforme, mais ce n'est ni celui de la police ni celui d'un service de secours. Il est vert, comme les arbres, comme les fougères, comme tout ce qui entoure sa voiture retournée. « Ne devrait-on pas s'éloigner davantage, hasarde-t-il, au cas où la bagnole exploserait ?»« Pourquoi voulez-vous qu'elle explose? Le moteur est coupé et ça ne sent pas l'essence. » En maugréant, il entreprend de ramper pour s'éloigner. Très naturellement, alors qu'il se traîne lamentablement, elle le retient par la cheville. Reinhard ne comprend pas immédiatement ce qui l'empêche d'avancer, mais lorsqu'il s'en aperçoit, il proteste. « Je rêve? Vous me bloquez contre mon gré? C'est une séquestration ?»« Une séquestration? En pleine forêt, vous délirez ?»« Pas du tout, vous n'avez pas le droit. Vous parlez beaucoup trop pour un accidenté. » Avec précaution, elle le stabilise sur le flanc et se penche sur lui. « Arrêtez de vous agiter. » « Est-ce que vous sentez l'extrémité de vos doigts ?» Il fait un effort pour les bouger. Affirmatif. Il la dévisage. De longs cheveux châtains attachés en une queue de cheval qui retombe sur son épaule. Des yeux clairs, un visage fin qui doit être assez joli lorsqu'il n'arbore pas une expression aussi sévère qu'à présent. Chris arrive à reprendre une relative maîtrise de ses idées. Lorsqu'elle déclare d'une voix solennelle « Vous venez d'avoir un accident ». « Je m'en doute, je ne me gare jamais sur le toit. »« Une chance que vous ayez évité les troncs d'arbres. Remerciez votre bonne étoile. »« Comment va l'écureuil ?» Elle le regarde avec suspicion. « Quel écureuil ?»« Celui pour lequel j'ai pilé. » Elle sourit. « Il n'est plus dans les parages et vous a certainement déjà oublié. »« Quelle ingratitude, après ce que j'ai fait pour lui. » Il essaye de se redresser. « Allez-y doucement, » tempère-t-elle. « Je vais bien, ne vous en faites pas, j'ai l'habitude. De faire des tonneaux en voiture ?» Il s'efforce laborieusement de s'asseoir sans y parvenir. La tête lui tourne. Il porte la main à son front pour se masser. « Selon la procédure standard, vous allez vérifier que j'ai les idées bien en place, me demander mon nom, mon âge, où on se trouve et tout un tas de détails. Je vous écoute. Pardon ? Dites-moi comment vous vous appelez, votre âge, où on se trouve. N'omettez pas les détails. » Le visage de son interlocutrice est redevenu sérieux. Christopher Rognard, perdu au fin fond de l'Écosse, théoriquement un jet de pierre de la côte ouest. Voilà 2 semaines, j'ai eu 34 ans et ma mère m'a organisé le dîner d'anniversaire surprise le plus épouvantable que l'humanité ait connu. De sa voix toujours flottante, il articule. Avez-vous déjà été humilié devant vos amis au point qu'en soufflant vos bougies, vous ne lisiez que de la pitié dans leurs yeux? Vous parlez trop. C'est vous qui m'avez demandé des détails. D'ailleurs, parler est une excellente façon de faire baisser la pression. Je vous signale que j'ai eu un accident. Sans blague. Je sais, c'est moi qui vous l'ai annoncé. Avec difficulté, il parvient à se mettre à genoux. Son regard vagabonde avant de revenir sur elle. Le jour décline et il ne sait toujours pas quel uniforme elle porte. Sur son épaule, il déchiffre un écusson. National Park Ranger. Vous êtes garde forestier? Tout à fait. Une sacrée veine que vous soyez passé par là. Parce qu'il n'y a pas foule. Personne ne s'aventure ici par hasard. Il tente de se relever, chancelant encore. Vous vous êtes perdu? L'interroge la jeune femme en le soutenant. Non, j'ai un rendez-vous demain matin. À Kilthorpe. La dernière fois que j'ai regardé le GPS, j'étais presque arrivé. Elle lui indique la trouée de lumière au bout de la route forestière. La baie est là-bas, juste après la crête. Il plisse les yeux, mais ne distingue pas grand-chose. Trop de mal à fixer son attention. Il considère sa voiture retournée et les traces que son tonneau a laissées sur le bas-côté. Soudain, il hurle en direction de la forêt. « Hé, l'écureuil, tu pourrais au moins me signer une attestation pour les assurances. On fait un constat à l'amiable ?» Il ne vous répondra pas. Dans la région, on leur apprend à ne pas parler aux étrangers. Venez, je vais vous accompagner jusqu'au village. Avec les gestes approximatifs d'un homme ivre, Rognard lui fait signe d'attendre un instant et titube jusqu'à son véhicule. Il s'engage à l'intérieur, en rampant, et se cogne, lâchant un grognement. Il récupère son portable, son portefeuille, sans oublier quelques bonbons. Aussitôt ressorti, il vérifie son téléphone. Prévenir Olivia. N'espérez rien, l'avertit la jeune femme. Aucun réseau ne couvre cette enclave. Il hoche la tête sans aucune maîtrise, acceptant l'information avec fatalisme, puis désigne le coffre retourné avec un air entendu. Amusée, elle l'observe se déplacer comme une marionnette à fil mal animée. À peine le coffre est-il ouvert que Rognard en reçoit la totalité du contenu sur les pieds. Chaussures de course, bidon de lave-glace à moitié vide, quelques outils et des câbles. Un sac de voyage et des dossiers se répandent sur le sol. Sans se démonter, il ramasse une petite boîte verte au milieu de l'amoncellement. L'air étonné, il l'approche de son visage et murmure « Hé, ça fait 2 ans que je te cherche. Je suis content de te revoir. Pourquoi t'as pas fait signe avant ?»« Du coup, j'ai été obligé de racheter des embouts. » La jeune femme éclate de rire. « Monsieur Rognard, il va faire nuit. » Chris opine. Ramasse son sac de voyage et tente de remettre le reste dans le coffre, mais ce qu'il balance retombe obstinément. La ranger finit par intervenir et se débarrasse du bric-à-brac en l'expédiant à l'arrière du véhicule. Une fois sa besogne accomplie, elle claque les portières. Il la regarde aller placer le triangle de signalisation en amont près de la chaussée. « On laisse tout comme ça ? Ne vous en faites pas. J'ai l'impression que le verrouillage ne fonctionne plus. Cela ne servirait à rien. » La vitre côté passager est brisée. De toute façon, en Écosse, il existe une règle qui veut que personne ne pille une voiture posée sur le toit. Les vraies valeurs n'ont donc pas totalement disparu. La jeune femme l'invite à rejoindre son imposant Defender. Le Land Rover est du même vert que son uniforme. En se hissant à la place du passager, Chris demande « Vous pensez qu'un garage de Kilthorpe pourra remettre ma voiture sur roue ?»« Si c'était un bateau, on trouverait du monde pour vous dépanner, mais là... » Vous n'avez pas l'air de vous douter du genre d'endroit qu'est Kilthorpe. Ne me dites pas qu'on n'y trouve ni centre commercial ni boîte de nuit. Pas même un centre d'art moderne. Elle ajoute. Voyez le bon côté des choses. Les nuits sont paisibles. Mais ma bagnole va rester plantée dans le talus. Alors qu'elle démarre, la mine déconfite de Chris la fait sourire. Bienvenue en Écosse, monsieur Rognard. Et avec un peu de retard, bon anniversaire.